Jérôme Vaquet, bonjour.
Oui, bonjour.
La compagnie des Lucioles présente donc en Avignon Camélia, des fleurs pour un passage quand même un peu difficile, très douloureux, celui des deux bombes qui ont été larguées sur le Japon.
Oui, effectivement, nous avons choisi de travailler sur un texte d'une japonaise qui écrit en français et qui est éditée dans la collection Actes Sud et qui a écrit 5 très très beaux romans. Et nous avons décidé d'adapter un de ses romans, Tsubaki, qui se traduit par Camélia. Et c'est l'histoire avec un grand H, mais ce qui nous a beaucoup intéressé dans ce projet, c'est le parallèle entre l'histoire et une histoire familiale, avec des relations humaines très intenses et très denses, et un parallèle entre la vie pendant cette Seconde Guerre mondiale au Japon, la vie entre les êtres, et l'histoire qu'on connaît tous, ces deux bombes atomiques qui sont tombées sur Hiroshima et Nagasaki. Donc c'est ce parallèle qui nous a beaucoup intéressés. Nous avons beaucoup insisté justement sur le travail sur les êtres et sur les relations humaines entre les êtres plutôt que la guerre. La guerre est finalement toujours sous-jacente, mais n'est pas jouée, n'est pas montrée. C'est la période, on est dans cette période-là. Mais on a essayé de travailler sur les relations humaines entre Yukio, Yukiko, qui sont demi-frères, demi-sœurs, et leur père, donc Monsieur Olibe, qui est tué justement par sa fille à la fin de la pièce. Et on se pose la question, on peut se poser la même question pour les bombes atomiques, était-ce nécessaire et n'y avait-il pas d'autre solution? Et cette jeune fille n'avait-elle pas aussi d'autre solution plutôt que de tuer son père, puisqu'elle apprend au cours de la pièce, au cours de l'histoire, que son père a eu une relation d'adultère et donc a une relation amoureuse avec la voisine.
Alors effectivement, vous avez posé les bonnes questions, mais vous n'y avez pas vraiment répondu. Il n'y a pas de jugement définitif sur cette période.
Oui, c'est un choix en fait. Il n'y a pas de jugement et je ne me permettrai pas de donner d'ailleurs un jugement sur cette période et sur les bombes atomiques. Les questions sont soulevées, sont posées et chaque personne dans le public peut répondre éventuellement à cette question, à ces questions, ou peut ne pas y répondre en fait. Je ne pense que personne ne peut répondre à savoir, pour tout le monde, c'était a priori pas nécessaire, mais comme il est dit dans la pièce, si les bombes atomiques n'étaient pas tombées sur Hiroshima et Nagasaki, que serait devenu le Japon? Est-ce qu'il aurait été pris sous l'emprise russe? Et serait-il devenu un pays communiste et comme la Corée du Nord aujourd'hui? En fait, les questions sont soulevées et je pense que c'est ce qui est intéressant au théâtre, c'est qu'il y ait des questions, qu'il y ait des messages, mais que chacun puisse répondre. C'est tout à fait ouvert.
Alors vous allez nous parler de la distribution de ce spectacle?
Oui, avec plaisir. Donc la distribution, en fait, personnellement, j'ai travaillé au Japon quelques années puisque j'ai voulu suivre une formation théâtrale au Japon et j'ai rencontré donc Monsieur Matsula qui est un artiste issu d'une famille de théâtre no. Donc le théâtre no est le théâtre traditionnel japonais qui est le seul théâtre au monde qui perdure depuis 7 siècles et qui est encore joué aujourd'hui de la même manière qu'il l'était finalement au 13e et au 14e siècle avec des codes, une gestuelle très précise. Nous avons décidé de monter ce projet. Donc personnellement, je suis Jérôme Vaquier et moi je suis comédien ici en Occident, mais j'ai eu une formation au Japon et je travaille avec d'autres compagnies aussi en France. Et nous avons aussi fait une rencontre très essentielle pour ce projet. Nous avons rencontré Frédéric Haas, qui est claveciniste et qui est donc très connu dans le monde de la musique baroque et dans la musique. Et il a souhaité travailler avec nous parce qu'il a trouvé que ce projet était très très intéressant et que justement le thème était très intéressant et de travailler. C'est la première fois qu'il travaille en théâtre. D'habitude, il est toujours fait des concerts dans des orchestres de chambre et des concerts dans le monde entier. Et il a voulu travailler avec nous sur ce projet et donc nous avons décidé d'insérer le clavecin. Pour quelle raison le clavecin? C'est parce qu'il est dit qu'à un moment, justement, que cet homme, le père de Yukio et Yukiko, a étudié en Occident et il a étudié la musique. Donc on s'est dit qu'il avait pu éventuellement étudier le clavecin, donc cet instrument baroque. Et on a trouvé que le parallèle entre la tradition japonaise un instrument, cette musique, ce clavecin, allait donner une tonalité très, très étrange et allait être très percutante.
Alors, dans son rôle, Masato Matsura joue au début un homme, après une femme. C'est une caractéristique du théâtre no, d'être ambigu, de jouer sur les deux registres ?
Non, sur les deux registres, non. Enfin, dans le théâtre no, il n'y a que des hommes qui jouent. Il n'y a aucune femme. Hein. C'est comme nous, à l'époque de Shakespeare, il n'y avait que des hommes qui jouaient dans les pièces de Shakespeare. Là, c'est pareil. Les femmes dans le théâtre no sont... Enfin, donc, il y a des rôles de femmes, ils sont interprétés par des hommes. Souvent, ils sont masqués. De temps en temps, ils ne sont pas masqués. Nous avons décidé que Masato Matsura, dans notre parti pris, allait jouer les deux rôles parce que nous avons beaucoup travaillé sur la dualité, sur le rouge, le blanc, la vie, la mort, l'amour, la haine. Le yin yang, et en fait ces deux personnages qui sont donc demi-frères, demi-sœurs, c'est finalement ils sont comme recto verso, en fait ils ont le même père, ils pouvaient être interprétés par la même personne, par le même acteur, parce que c'est vraiment ils sont unis l'un à l'autre. Et c'est pour ça qu'elle souffre énormément. Et quand elle apprend que c'est son demi-frère, elle ne trouve que la solution de tuer son père, d'empoisonner son père.
Frédéric Rasse, bonjour.
Bonjour.
Donc là, on est sur un registre classique, je veux dire 17e siècle à peu près.
C'est ça, 17e. La musique, là, était plutôt du 18e siècle. Ouais. Enfin, c'est la même, ce sont un peu les mêmes styles musicaux, ce qu'il est convenu d'appeler la musique baroque. Mm-hmm. Et... je ne peux pas m'empêcher de penser que dans le cadre de ce travail ici, que finalement le rapport aux formes anciennes, au style ancien aussi que nous avons par rapport à la musique du XVIIe siècle, ressemble beaucoup au rapport que l'acteur japonais du théâtre no peut avoir à ces formes à lui qui sont encore plus anciennes, mais qu'il s'agit de mettre en vie maintenant, ce qui est toujours le cas du musicien, parce que la musique n'existe jamais en dehors du moment où elle est jouée. En revanche, elle est souvent composée avant l'acte de jouer.
Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de jouer pour ce spectacle ? Et comment vous avez trouvé votre apport, en fait, votre apport et votre rapport au spectacle ?
Donc, je crois que oui, pour moi, la chose fondamentale, c'est cette grande communauté, similarité d'attitude, finalement, entre un type de théâtre qui est présent, qui est moderne, donc qui est joué sur scène maintenant, mais qui est construit à partir d'un langage de gestes, d'attitude, un code, qui est très ancien. Et ça produit un placement de l'artiste dans son art qui ressemble totalement à ce que moi je vis par rapport à la musique ancienne que j'essaie de faire vivre aujourd'hui. Dès lors, l'expérience théâtrale m'intéressait complètement et me semblait, quant à l'esprit, tout à fait évidente. Et pour ce qui est du choix des pièces, des pièces musicales dans la pièce théâtrale, il s'agit de trouver des moments un peu charnière, des moments pivots où le son du clavecin pouvait donner un changement d'atmosphère qui venait souligner un changement de scène, un changement de temps, un changement de personnage, et aussi bien sûr une atmosphère musicale qui se dégage de la pièce musicale qui puisse venir souligner ce qui se passe dans le théâtre. Donc c'est ainsi que, par exemple, à la fin de la pièce, lorsque on a ce moment très, très japonais, à mon avis, les personnages finalement revivent un petit peu dans un contexte très fantomatique, comme des souvenirs, dans un temps qui est plus présent mais qui est en même temps plus ancien, et tout se mélange un petit peu dans la brume d'une espèce de recul. J'ai choisi de jouer la première fugue de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach, une espèce de, qui représente aussi une sorte d'achèvement musical, à la fois formellement très, très rigoureux et en même temps d'une sensibilité très contenue, musique où se trouvent beaucoup de dissonances cachées, beaucoup de voix qui dialoguent dans une grande harmonie, mais avec aussi beaucoup de frottements. Et je trouve que l'atmosphère et la signification de cette pièce musicale étaient tout à fait dans l'esprit de la scène en question qui vient terminer donc la pièce Camélia.
Frédéric Haas, je vous remercie.
Voilà.
Masato Matsura, bonjour.
Bonjour.
Donc, vous jouez dans ce spectacle Camélia.
Oui.
C'est une aventure pour
oui,
vous ?
Oui, c'est une grande aventure. Parce que notre dernière pièce, c'était l'écriation de la pièce de théâtre No, de théâtre Kyogen. Mais cette fois, tout à fait pour une nouvelle création. C'est-à-dire qu'on a adapté le roman de. Une roman écrit par une japonaise. J'ai joué le rôle de jeune fille. Normalement, l'acteur de nos joue le rôle de femme avec le masque. Mais cette fois, j'ai essayé de sans masque.
La collaboration avec un metteur en scène, un comédien français et vous, du théâtre No, c'est pour vous quelque chose de symbolique aussi ?
Oui, pour moi, quand je travaille avec en français avec étrangers, comment dire, encore découvert moi-même. Ce travail avec Campagne de Lucio, je dois recréer, reconstruire notre propre forme. C'est donc que je peux libérer la forme de théâtre noir. Donc je peux arriver à construire mon propre forme.
Alors, justement, je comprends bien. Est-ce que vous voulez dire par là que l'acteur ou le théâtre noir rendent un peu les gens prisonniers de cette forme et que vous avez envie d'en sortir ?
Oui, moi, pour moi aussi, c'est un grand plaisir. Quand même, en même temps, c'est tout à fait prisonnier.
Il y a la tradition à respecter dans le théâtre No. On se doit de continuer l'aventure du théâtre No.
Ah, pour moi ? Oui, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous pensez des formes, par exemple, comme le buto, le kabuki ?
Chaque forme, j'aime bien, je respecte. Mais des fois, tous les acteurs, tous les danseurs, des fois, il y a une fake forme. Vous avez compris ? Chaque instant, chaque jour, même si il y a une forme, il faut inventer. Mon thème, c'est pas seulement le thème de texte, mais plus profond, c'est-à-dire comment le monde construit.
Alors, on comprend bien sur les sujets, sur les sentiments, on les ressent comment ? Enfin, vous aimez exprimer des sentiments ? On a l'impression que vous êtes un peu en réserve sur les sentiments. Vous êtes un peu à l'écart, vous n'avez pas envie de vous livrer trop. Enfin.
C'est un peu contradictoire. Je n'ose pas exprimer. Plutôt, concentre, cacher. Finalement, c'est-à-dire, réaction, inconsciemment exploser mon sentiment, expression. C'est émotion. C'est mon moyen, méthode.
Merci beaucoup.
Ah, merci beaucoup à moi. Excusez-moi, mauvais français. Je suis un peu.
Donc on est replongé là dans l'époque douloureuse du Japon des années 40-50.
Oui, tout à fait. Alors, ce fait que les États-Unis ont lancé de bombes atomiques, comme le personnage dans cette pièce a dit. Je suis tout à fait d'accord, et puis j'ai lu le reportage d'un journaliste américain, c'est Jesse, j'ai oublié, Hassi. Alors, oui, c'est tout à fait inutile d'avoir lancé la deuxième bombe atomique. La première était déjà inutile. Notre défaite a été presque sûre à ce moment-là. Les Américains étaient, je crois, pleinement sûrs de notre défaite. Mais comme ils ont fabriqué les bombes, pourquoi pas de lancer. Et puis il y a là-dessus le problème de la race, je crois. C'est-à-dire, en Allemagne, comme toujours le personnage de cette pièce a dit, les Américains n'auraient jamais lancé la bombe atomique parce que c'est européen. Et l'origine des Américains, c'est anglais. Alors c'est toujours européen. Mais pour nous, les gens d'Asie, pour eux, à cette époque, ils ont pensé, je crois, que le peuple d'Asie était presque la même chose comme les animaux. Ils n'ont pas du tout respecté la race asiatique à cette époque-là. Il y a des exceptions, oui, ça je sais, mais l'opinion générale c'était comme ça. Alors, j'ai oublié combien de personnes ont été mortes par deux bombes atomiques, mais c'était énorme le chiffre. Mais pour les Américains, ce fait n'était pas du tout quelque chose de grave. Et puis, à part ce fait de la bombe atomique, oui, dans cette pièce, oui, c'est très bien. Moi, je n'ai pas pu comprendre tout argument dans cette pièce. Oui, c'est, il y a juxtapose, mais je crois l'action a été très bien amenée. Oui, si notre acteur de nom aurait pu parler plus clairement le français, c'est vraiment parfait. Alors, pour les spectateurs français, c'est un peu gênant, sa prononciation, non? C'était bon pour vous?
C'était compréhensible, oui.
Oui, 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 il a quand même bien prononcé le français, je crois. Mais l'autre acteur français était vraiment très, très bien, très clair. J'ai tout compris ce qu'il a prononcé. Mais notre acteur, il y a quelque chose qui m'a échappé. Mais oui, en tout, j'étais très satisfaite de cette représentation. Et puis, beaucoup de Français sont ignorants de notre guerre, de ces deux bombes atomiques, je crois. Alors, je je suis vraiment très reconnaissante à Jérôme Baquier d'avoir monté cette pièce au Festival d'Avignon.
En 2006, est-ce que ce drame est encore dans les esprits des Japonais?
Ah oui, il y a toujours beaucoup de malades causés par les deux bombes atomiques. Ils sont mourants maintenant, mais encore des victimes vivantes. Alors, 2006, c'était le 60e anniversaire de la bombe atomique. C'est l'année dernière, 2005. Oui, probablement c'est 2005. Alors, on a fêté, c'est un peu bizarre ce mot, fêté, mais on a fait un grand événement du 60e de la bombe atomique, le 6, c'est 6 août et 9 août, je crois. C'est 5 août à Hiroshima, 9 août à Nagasaki. Oui. Alors, c'est deux dates. L'année dernière était pour nous vraiment de nouveau impressionné, le peuple japonais.
Dans la pièce, on parle de la Corée qui a été séparée et de, finalement, quelque part, l'effet, je ne vais pas dire que c'était de la chance, mais un effet, disons, positif, que le Japon soit resté entier.
Oui. Et puis, oui, nous sommes vraiment... la séparation, ce n'est pas nous qui sommes responsables, mais quand même, le problème de la Corée, surtout pendant la guerre, les Japonais ont fait beaucoup de mal vis-à-vis des Coréens. Alors, toujours, nous avons beaucoup de culpabilité pour les Coréens. Et puis, les Coréens n'oublient jamais leur haine contre le Japon, malheureusement. C'est la même chose, la Chine. Oui. Mais oui, heureusement, notre pays n'est pas séparé comme l'Allemagne, comme la Corée. C'est vraiment notre bonheur, je crois.
Alors l'Allemagne s'est réunifiée il y a un moment.
Oui, heureusement.
Hein. Est-ce qu'on peut imaginer que la Corée, un jour, retrouve son identité commune?
Je souhaite et j'espère vraiment l'unification, on peut dire, l'unification de la Corée. Mais tant que ce tyran est vivant, je suis toujours pessimiste.
Il y a un spectacle, la compagnie Showin, ici, à Avignon, depuis 2 ans, s'appelle Le Train. Vous l'avez vu?
Non, pas encore. J'ai vu la publicité.
Alors, l'histoire est plaisante, hein, elle est facile pour les enfants, mais le fond, c'est quand même cette douleur due à la séparation.
Oui, ça, je suis tout à fait d'accord avec les Coréens. Et puis, vous connaissez que plusieurs Japonais ont été kidnappés par la Corée du Nord. Vous le savez? Ah non. Ah ça, il faut vraiment faire connaître tous les peuples du monde. C'est-à-dire, la Corée ont kidnappé plusieurs Japonais pour leur travailler, comment, je ne sais pas, mais ils ont éduqué les Japonais comme ça, injustement, avec de l'injustice, et ça a causé beaucoup de malheur.
À quel moment?
C'est toujours, depuis 10 ans.
Ah bon?
Oui.
Actuellement?
Oui, oui. Alors...
Et ils sont kidnappés, les Japonais, dans quelle région?
Partout sur le Japon.
Ah bon?
Vous êtes journaliste et vous êtes ignorant? Ah, l'autre jour, la mère dont la fille ont été kidnappées, et elle est morte, encore vivante, on ne sait jamais. Mais sa fille, c'est-à-dire la petite fille de cette personne, alors cette personne a été aux États-Unis. Alors, je n'aime pas du tout le président Bush, mais le président Bush, il a pensé quelques effets avantageux pour les États-Unis. Il a rencontré cette dame et il lui a dit de faire le plus tout le possible pour sauver sa petite fille et sa fille si elle est encore vivante. C'est facile à dire, mais quand même, il est président des États-Unis. Alors, sa parole est importante.
Et il y a beaucoup de Japonais qui ont été kidnappés dans les 10 ans?
Oui, c'est en tout cas une plus qu'une cinquantaine. Ça, j'en suis sûr.
Mais quel est l'objectif, hein?
C'est-à-dire, c'est un peu obscur pour moi, mais ils ont éduqué les Japonais à sa façon, c'est-à-dire à sa politique. Et puis, peut-être quelques ans, travaillent déjà pour la Corée du Nord, je crois. La publicité, tout ça. Mais ce n'est pas seulement les Japonais. Les habitants de la Corée du Sud ont été kidnappés également. Alors vraiment, ce dirigeant est fou. Il peut faire n'importe quoi. Oui.
Alors, comment vous situez les courants artistiques les courants artistiques japonais, par exemple? Là, on a parlé du théâtre no.
Oui.
Il y a également d'autres mouvements comme la danse buto.
Oui.
Comment vous voyez soit le parallèle, soit l'évolution de ces pratiques?
Parallèle et évolution, ça, je ne sais pas. Mais peut-être vous voyez que le Festival d'Avignon est aussi un peu en décadence, n'est-ce pas? Vous ne le trouvez pas? Non. Alors, comme Antonin Artaud a cherché sa vitalité dans le théâtre asiatique, maintenant, beaucoup de gens qui travaillent dans le milieu théâtral cherchent quelque chose de trouver cette comment dit-on, c'est un brochure, la sortie.
Ouverture.
Alors, les gens de théâtre français font très souvent du no, du buto, du kabuki. Ils ont pris des éléments de notre théâtre traditionnel. Mais c'est... je ne sais pas que c'est la solution de cette décadence actuelle, mais quand même, ça aide le théâtre français, je crois. J'ai vu Joseph Nagy à la cour d'honneur. Sa chorégraphie, franchement, dire, je n'aime pas du tout. Mais grâce aux six acteurs du buto japonais, ce spectacle a eu un succès, je crois. Ça dépend de notre buto, vraiment. J'en suis très fier.
De toute façon, on ne peut pas imaginer un grand festival et la création actuelle sans apport du monde entier.
C'est ça. Je suis tout à fait d'accord. Oui.
Donc on ne peut pas parler de décadence, on peut parler simplement d'inspiration, d'évolution qui prend en compte tout ce qui peut exister d'intéressant ou d'intelligent.
Oui, je l'espère bien. Et puis, j'ai parlé du Festival d'Avignon, mais notre propre théâtre, notre théâtre japonais, est aussi en décadence pour le moment. Mon mari est metteur en scène, il cherche toujours ce débouchure, cette porte qu'on espère d'en sortir. Et puis les autres également.
Dans la pièce, ceux qui lisent le comportement de l'armée japonaise, on n'en doute pas. Ils ont fait crever les prisonniers. Ils ont fait 70 000 prisonniers ils ont pris le port anglais. Et ils sont morts. Enfin, ils les ont fait mourir. Ils n'ont pas tué un à un, mais ils sont morts de faim. Non, être prisonnier japonais, c'était pas la joie. Le pont de la rivière Kwai en donne une idée, mais seulement une idée.
Justement, il fallait donc, soit si on était capturé par les Américains, il était préférable de se suicider. Il fallait pas être. C'est ce qui est évoqué dans la pièce, justement, et que l'armée japonaise était tellement fermée, tellement bloquée, c'était aussi terrible pour cette Seconde Guerre mondiale. Souvent, on l'évoque effectivement avec l'Allemagne et la France, mais on évoque aussi très peu le Japon et le comportement du Japon dans cette Seconde Guerre mondiale. Donc, dans cette pièce, je trouve que c'est effectivement aussi intéressant d'apporter des réponses.
Pour nous, en 1945, les Japonais, c'était l'horreur absolue, c'était les pics de bambou affûtés dans la vase, c'était les gars cachés dans les arbres qui tiraient. Enfin, il y a eu des films américains sur la guerre, ils imitaient le cri des blessés, ils appelaient au secours pour que les gars aillent les chercher pour pouvoir les tuer. Enfin, c'était les horreurs de la guerre. Et puis alors après... j'ai lu le bouquin sur la fabrication des kamikazes. Ah, enfin, qu'on appelait kamikazes, nous. Et alors, il y en a un qui a plongé sur le hangar pour détruire 50 avions et sauver 50 copains. Autant que sa mort servait à quelque chose. Ils n'avaient aucune chance de toucher un bateau. Ils étaient abattus avant d'arriver. D'ailleurs, ils n'avaient pas de quoi revenir. Ils n'avaient pas d'essence pour revenir. Ils n'avaient pas de train d'atterrissage. Alors, autrement dit, une fois qu'ils étaient partis, ils n'avaient plus qu'à essayer de couler un bâtiment allié.
Il y a un beau film film d'ailleurs qui a été réalisé sur les kamikazes il y a 3-4 ans par un Français justement, sur les kamikazes, qui est très très beau.
On faisait un kamikaze avec un manche à balai en tapant dessus. En quelques semaines, un adjudant faisait un gars prêt à monter dans l'avion et mourir. Ah, on manipule les gens, ça se manipule.